Aucun personnage caché en coulisses n'a frappé les trois coups pour annoncer l'apparition de ce nouveau décor, pourtant presque identique au précédent. Quelque chose a bougé. Les meubles, le plancher, les objets, les affaires, tout est bien à sa place, mais la perception a changé. Entre le jour où ils sont partis en panique et celui où ils rentrent, pas beaucoup plus placide avec leur nourrisson, ils emménagent pour la deuxième fois dans le même espace. Après 6 jours d'absence, elle découvre avec étonnement la disposition de l'appartement. Les obliques dessinées par le soleil à travers les fenêtres, la dimension des pièces, les proportions d'un meuble à porte coulissante. Cette impression de renouveau lui rappelle vaguement les retours de vacances, lorsque la voiture empruntait les rues du 17e arrondissement après de longs séjours d'été à la campagne et que le trajet habituel, depuis le périphérique intérieur jusqu'à l'entrée de leur parking, la surprenait parce que toutes les affiches avaient été remplacées aux arrêts de bus et que les arbres avaient changé d'aspect. Sur les grosses branches noueuses régulièrement élaguées à la tronçonneuse, les moignons implorant le ciel, un feuillage vert acide avait poussé et débordé de tous côtés, épanoui comme une crinière hirsute sous l'effet du soleil.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Cela semble très simple et même évident. Et d'ailleurs, c'est comme cela depuis la nuit des temps. Pas de quoi en faire toute une histoire. Un jour, comme prévu, le couple va donner naissance à un enfant. Les médecins et les sages-femmes leur ont tout bien expliqué. La pile de livres d'experts a été consciencieusement épluchée. La mère et les copines ont raconté. Et pourtant, dès les premiers pas hors de la maternité, c'est l'inconnu. Les décors familiers semblent avoir changé. La façon dont les autres les voient n'est plus la même. Leur vie, telle qu'ils l'avaient construite, a carrément implosé. L'enfant, cette troisième personne qui instantanément occupe toute la place, ébranle leurs certitudes, les oblige à revoir leurs priorités et les laisse à nu, ramenés à leur humanité première. Émerveillement, panique, épuisement, bonheur et stupéfaction s'entrechoquent. Et un jour, ils vont se demander, stupéfaits, mais c'était comment la vie avant ce tsunami ? Depuis longtemps, nous suivons l'itinéraire singulier de Valérie Mrejène à travers ses livres, ses documentaires et ses petites vidéos troublantes qui relèvent les 1000 absurdités et cruautés de nos vies. Depuis son premier récit, « Mon grand-père » paru en 1999 chez POL, elle nous avait habitués à recevoir, de temps à autre, des nouvelles de sa propre famille relatées d'une plume tranchante mais étrangement dépassionnée. Aujourd'hui, même si son dernier livre « Troisième personne » est sous-titré « Roman », c'est bien de son expérience de jeune mère qu'il est question. Comme une sorte de journal en désordre, de courtes notations, sans chronologie, rendent compte de la violence des sentiments, des perceptions, des expériences qui ont envahi le père et la mère de l'enfant. Ici, rien de dur, pas d'ironie, juste un immense étonnement et une curiosité d'entomologiste pour les changements survenus chez eux. Troisième personne, paru chez POL, est un petit livre débordant de vie à mettre entre toutes les mains. Et Valérie Mrejène est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde.
Is there a light you have inside you? Can't touch a looking glass, can only show you so much. Follow the signs slowly but steady, don't rush. The day will come when you're ready, just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere, drown me in your sea so clear. Is there a way for you to shine out? Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain,
Bonjour Valérie Imregène.
Bonjour.
C'est votre huitième livre, ce troisième personne, mais je me suis trompée. En fait, mon grand-père, le premier, c'était chez Alia, comme tous les suivants. Et c'est le précédent, Forêt Noire, qui est paru chez POL.
Absolument.
Alors, tous ces livres qui ont précédé troisième personne, ils nous ont habitués à avoir des pans de votre vie, comme vous les racontez, avec un certain détachement, une certaine cruauté. Celui-ci, il est très différent de tous les précédents, parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas pu tenir cette distance, qu'il n'y a pas d'ironie, que cet événement, en fait, il vous a littéralement sidéré, et que du coup, même votre style d'écrivain en a été changé.
Oui, peut-être que ça tient au sujet, en effet. Enfin, au sujet, à l'événement dont j'ai fait le sujet de ce livre, qui est l'arrivée d'un enfant. Et là, tout d'un coup, à la fois, enfin, j'ai quand même essayé, je crois, de garder ce point de vue un peu distancié sur moi-même, sur les parents tels qu'ils sont nommés, enfin, pas nommés d'ailleurs, enfin, ils sont appelés les parents dans le livre. Je me rajeunis un peu en disant la jeune mère d'ailleurs, mais en effet je crois que l'envie d'écrire ce livre est partie d'un moment d'émotion comme très forte, qui était le retour de la maternité en fait dans le taxi, et je pense que ça a dû rejaillir en fait sur l'écriture elle-même, parce que ce sont des notes qui sont compilées presque en direct, en fait, des observations et.
Mais vous avez eu pas mal d'années pour le faire,
finalement.
Ce livre.
Oui, je l'ai pas commencé tout de suite à l'écrire. J'ai attendu un petit peu d'abord.
Mais les notes existaient déjà.
Bah, des notes virtuelles, parce que je prends jamais de notes, en fait. Mais c'est surtout des choses comme ça que j'ai un peu gardées dans un coin de ma tête. Bon, enfin, oui, c'est vrai, c'est un livre un peu différent des autres. Après, ça s'est trouvé comme ça, je ne sais pas très bien.
Parce que, disons quand même les choses, Valérie Imregène, ouais. Vous êtes la traqueuse de lieux communs. Or, même si pour chaque individu, la naissance d'un enfant est un événement absolument extraordinaire et unique, c'est quand même le lieu bien où sûr. L'on retrouve également les lieux communs. Mmh. Or, dans ce livre, il y a des lieux communs, mais vécu, c'est-à-dire plus du tout montré comme vous aviez l'habitude de le faire. Comme si tout d'un coup, ces lieux communs s'étaient vengés de vous.
Oui, c'est un peu ça.
Et vous avez envahi.
Oui, oui. Il y a un peu de ça. En fait, tout d'un coup, je me suis trouvée bien maligne d'être au cœur, en fait, d'une expérience comme celle-ci. Et j'avais plus tellement envie, c'est vrai, d'utiliser l'ironie. Ce que j'avais fait. De façon un peu incontrôlée avant, pas incontrôlée, mais justement très contrôlée. Enfin, disons, là, il y a quand même toujours le désir, parfois, de se voir avec un certain recul, comme si on surplombait la propre scène dont on fait partie. Par exemple, quand je décris que pour ranger les jouets, il faut faire soi-même les compléter, en fait, et se retrouver à faire des jeux d'éveil, alors qu'on est complètement crevé, qu'on a tellement de travail, et qu'on n'a vraiment pas le temps, etc. Donc, il y a des moments comme ça où, en fait, je relève des choses qui sont communes à tous. Donc, on est quand même, d'une certaine manière, dans le lieu commun et dans beaucoup de choses, sans doute, partagées par beaucoup de parents, enfin, ou des gens qui sont passés par ces moments-là. Mais j'ai moins envie de m'en moquer, enfin, parce qu'il y a une grande tendresse, en fait. Tout d'un coup, ce regard un petit peu acide est complètement contrebalancé par un sentiment d'amour, comme ça, qui... j'essaie, en fait, de pas non plus tomber dans la guimauve, etc.
Non, il n'y a pas de guimauve, mais alors justement, vous cherchiez le mot en disant... cette ironie ne peut pas fonctionner parce que c'est contrebalancé par la tendresse. Moi, je dirais, c'est surtout contrebalancé par la sidération. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous rendez compte que oui, effectivement, vous êtes obligé de changer. Votre vie a changé. D'ailleurs, on va écouter tout de suite, toujours dans la belle voix d'Aurélie Charron, la lecture d'une partie de votre livre, d'une page. C'était comment avant ?
Après l'arrivée de l'enfant, ils s'amuseront régulièrement à se tester l'un l'autre, à formuler des interrogations sous forme de défis. Avant, comment se passaient les journées ?
quel était notre emploi du temps. Par jeu, ils essaieront de retrouver la mémoire immédiate de ce passé pourtant déjà loin d'eux, de se glisser un bref instant dans leur ancienne peau de jeunes gens. Ils ne savent plus comment c'était de n'être responsables que d'eux-mêmes. Ils se questionnent, mais ils ne peuvent revivre cet état comme on enfilerait un vieux vêtement retrouvé par hasard. Bientôt, ils verront que l'enfant aussi connaît des phases de retour en arrière, des sursauts nostalgiques. Ils assisteront étonnés à quelques tentatives désespérées de rétrogradation. Pourquoi essaye-t-elle de se glisser dans son premier couffin devenu trop étroit ? Cela provoque une crise de rage parce que les jambes ne rentrent plus, que la tête dépasse elle aussi, comme si elle essayait de se cacher intégralement sous un mini mouchoir de poche. L'effort mental qu'il faudrait faire ressemble trop à une tentative d'effacement. Ils ne veulent pas, même en pensée, devoir la faire disparaître une seconde. Et pourtant, ils se demandent bien comment était leur vie il y a encore 2 mois. De toute façon, la sidération est trop grande pour arriver à effectuer cette simulation du passé. Leur esprit, désormais, est occupé par cette sidération.
Valérie Mregen, c'est vrai, dans le livre, à un moment, vous vous posez la question, au fond, qu'est-ce que l'arrivée d'un enfant change, non seulement dans la vie de tout le monde, mais plus précisément dans la vie d'une artiste comme vous, d'une artiste qui a besoin de temps, de calme, de silence pour créer, pour inventer un autre monde. Et là, le monde dans lequel vous avez été plongé, il est beaucoup trop présent, trop trivial et même trop important. C'est-à-dire que vous l'acceptez et en même temps, ça ne peut plus être comme ça. Là, c'est une vraie sidération aussi. Comment faire pour exister encore, vous ?
Oui, beaucoup de questions d'organisation. Tout d'un coup, c'était déjà le cas avant, mais en effet, je pense que il y a une énorme part de sidération et mais aussi d'acceptation du fait que le quotidien ne vous appartient plus, en fait. Enfin, en tout cas, au tout début. Alors c'est en effet un grand bouleversement et parfois un peu une souffrance. Quand tout d'un coup, on a vraiment l'impression qu'on n'a plus du tout de seconde pour penser, mais même pour penser à rien. Enfin, et en même temps, c'est arrivé, enfin en tout cas là, pour moi, un moment où c'était ça dont j'avais vraiment envie. Enfin, peut-être que le fait d'en faire un livre, c'est aussi une façon de créer un objet à partir de cette expérience
de montrer
vécue.
Que l'artiste a réussi à faire quelque chose de cet événement écrasant.
Enfin, c'est pas forcément formulé comme ça dans mon esprit, mais disons, c'est un sujet dont j'avais envie de parler. Il se trouve que c'est arrivé à ce moment-là et que c'était ça faisait aussi partie, c'est vrai, d'un questionnement et d'un questionnement à la fois personnel et social et générationnel, je crois. Enfin, en tout cas pour des gens, parce que j'en parle un moment dans le livre, qui ont fait, je sais pas, une carrière artistique. Bon, enfin, moi, il se trouve que j'ai commencé par vouloir accomplir un bout de chemin avant, que j'ai eu envie de commencer à penser à avoir un enfant tardivement, comme pas mal de gens que je connais, de ma génération, enfin voilà. Et du coup, ça entre dans le livre aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que c'était important de l'évoquer, voilà, sans en faire une revendication ou je ne sais quoi. Oui, c'est à la fois quelque chose dont j'essaie de rire parce que tout d'un coup je constate qu'en effet il y a cette idée d'épuisement, de fatigue comme ça qui est présente dans le livre et d'indisponibilité à son travail comme on avait l'habitude avant et en même temps cette fascination absolue pour une présence nouvelle qui emplit tout l'espace en fait, enfin voilà, qui s'étend vraiment physiquement dans l'appartement et au-delà.
Mais d'ailleurs ce livre s'appelle Troisième personne, alors on peut l'entendre de toutes les façons possibles, c'est effectivement l'arrivée d'une troisième personne dans le couple. C'est aussi la façon dont vous l'avez rédigé, à la troisième personne. C'est aussi alors ce sentiment qui n'est pas du tout dans votre livre, mais qui souvent est dans le livre d'autres femmes qui ont écrit, ce sentiment d'être habité par une autre personne. Alors, on pense à Alien, évidemment. Mais avoir tout d'un coup une troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a vous, je dirais, Valérie Mregène, il y a la Valérie Mregène en couple, qui est déjà une deuxième personne, et puis il y a la Valérie Mregène qui est mère, c'est une troisième personne. C'est aussi comme ça qu'il faut l'entendre, ce terme de troisième personne.
Oui, oui, bien sûr, c'est un titre assez pratique parce qu'il est à multiples entrées. Il y a aussi, je pense, l'idée que la mère n'est jamais tout à fait... Enfin, le rôle de la mère, ou en tout cas cette position-là de personne qui écrit, me semble toujours un peu extérieur, en fait, comme si je jouais un personnage, comme si c'était pas tout à fait moi complètement. Disons que les deux entrées principales, c'est en effet la troisième personne qui est donc cet enfant, enfin voilà, quelqu'un qui arrive, un nouvel être, et puis en effet le elle ou le il que j'ai choisi pour parler des autres, enfin des deux parents et des autres personnes ou personnages du livre.
Mais il y a aussi cette difficulté que connaissent. J'allais dire toutes, j'en sais rien, mais en tout cas la plupart des mères, qui est à un moment ou un autre de se dissocier de cette troisième personne, c'est-à-dire d'admettre qu'il y a une troisième personne et non pas simplement une excroissance de soi-même. Et la première difficulté, c'est de nommer cette troisième personne.
Elle met un certain temps à pouvoir dire « ma fille ». Cela ne lui vient pas naturellement. Même après la naissance, elle n'est pas sûre de pouvoir prononcer ces mots. Il faut que les autres les disent d'abord. Elle a besoin de les avoir entendus plusieurs fois, notamment par des mandataires de l'autorité administrative, et s'assurer qu'il n'y a là aucune entourloupe avant de les répéter à son tour. Pendant de longues années, elle est restée comme une enfant. Elle admirait et enviait ces femmes qui, selon l'expression, donnaient la vie, nourrissaient, choyaient, habillaient et élevaient des êtres humains. Un très grand nombre d'entre elles le faisaient, et même quelques-unes qui ne l'avaient pas voulu. Elles avaient atteint l'autre bord, le pays fantasmé. Un territoire situé presque à portée de la main, mais séparé par une ligne invisible absolument infranchissable. Une ligne mentale, une frontière blanche et continue tracée dans son esprit il y a bien des années par une partie d'elle-même. La partie en retrait, négative, défaitiste. Elle est persuadée qu'elle ne pourra jamais tenir ce rôle. Elle le pense, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas l'envie qui lui fait défaut, oh non, bien au contraire. C'est une croyance profonde, un manque d'identification pure et simple avec cette image. Ceci est un monde de vraies femmes et elle est bien trop loin derrière. Sa propre mère a disparu si tôt, elle ne peut absolument pas se voir à la même place. Surtout pas quand le père essaye de l'y pousser avec des mots très mal choisis. Il décide en effet, dans un réflexe pragmatique peu après l'enterrement, de la promouvoir remplaçante, figure maternelle de substitution pour son frère et sa sœur. Mais ce qu'elle voit surtout dans ce remaniement hâtif, c'est son devenir épouse d'un homme qui est son géniteur. D'ailleurs, il confond souvent les prénoms et commet des lapsus énormes.
Valérie Mregène, devenir mère, ça vous semblait évident, et en même temps, ce rôle que les regards des autres vous imposent tout d'un coup, vous avez du mal à vous glisser dedans. Alors, c'est votre histoire personnelle, mais c'est de toute façon une difficulté, c'est-à-dire... Le regard des autres à ce moment-là devient quelque chose de très embarrassant.
Oui, oui. Enfin, ce rôle ne s'impose réellement que par grâce ou à cause du regard des autres, en fait, mais à commencer par celui de l'enfant, qui ne voit pas encore très bien, mais qui tout d'un coup... vraiment, je me suis sentie regardée par ce tout petit bébé comme... la personne qui était projetée dans ce rôle, tout d'un coup, ça m'a donné une certitude, en fait. Mais ça serait pas venu de moi, en fait. C'est vraiment... En ce qui me concerne, j'ai vraiment eu le sentiment que ce rôle m'était confié, m'était donné par elle, parce que c'était une petite fille, et puis par la suite, en effet... Il y a tout ce que je m'amuse à décrire sur les gens dans la rue, etc., les inconnus avec qui on parle, les voisins, les regards aussi qui changent, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et troublé. C'est plutôt très plaisant, mais en effet, rétrospectivement, parfois, je me disais, mais au fond, tout d'un coup, j'avais l'impression de devenir quelqu'un de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus digne de confiance.
Mais d'ailleurs, dans la façon dont vous avez dit une jeune mère et vous êtes reprise en disant, bah non, vu l'âge où j'ai été mère, je ne peux pas dire si. C'est-à-dire que, en fait, avant, vous étiez une jeune fille.
Oui,
et puis un jour, vous êtes devenue une mère, mais c'est surtout que voilà, ce regard a changé. Vous êtes devenue, au fond, une sorte de propriété collective. Avant la naissance et après la naissance. Avant, on touchait votre ventre, on vous parlait. Bon, après, c'était la mère et le bébé. Il y a aussi une sorte de dépersonnalisation de soi-même et on devient, aux yeux des autres, on n'est plus Valérie Mregène, la plasticienne, la vidéaste, l'écrivain. On est une mère.
Oui, enfin, disons que cette histoire de ventre, etc., c'est aussi beaucoup dans la rue, mais quand même, ça m'est arrivé avec des gens que je connais. Donc c'est vrai, la perception avait changé, c'est-à-dire tout d'un coup, enfin, en tout cas au bout d'un certain moment, on peut plus le cacher, donc on ne voit que ça, c'est assez évident. Tout d'un coup, les gens, voilà, qui n'étaient pas au courant, l'apprennent de fait, etc. Donc ça attire la conversation. Enfin, c'est difficile d'échapper à ça, c'est-à-dire que de refuser en bloc et dire non mais parlons d'autre chose, etc. Bah oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps, on est quand même content d'en parler parce que surtout, enfin moi c'est quelque chose que j'avais souhaité, etc. Donc mais en même temps. Enfin, j'aimais bien en parler, mais jusqu'à un certain point. Il y a ce mélange, en fait, d'embarras, parfois, quand ça commence à devenir trop, quand les conversations, par exemple, entre jeunes parents qui se retrouvent parce qu'ils ont leurs enfants dans la même crèche, par exemple. Et en effet, les discussions ne tournant qu'autour de ça, bon, enfin, ça renvoie à l'exclusive condition de jeunes parents. Et moi, je sais que ça avait tendance un peu à me fatiguer assez vite, mais en même temps, il y a là-dedans une forme de presque de complaisance, quoi, de plaisir à, voilà. Mais j'essayais de dire au plus près, au plus juste, ce que j'avais éprouvé, par exemple, dans cette impression que tout d'un coup, un bébé ou une femme enceinte appartient à tout le monde, en fait. Que les gens dans la rue viennent vous toucher ou toucher l'enfant, vous dire trois mots, etc. C'est en fonction de l'humeur dans laquelle on est, ça peut être un peu pesant, ça peut être vécu comme une intrusion. Et moi, j'avais quand même le sentiment chaque fois d'être plutôt touchée par ça, en fait. Mais au sens propre et au sens figuré aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait que ça éveille la curiosité des gens, quelque chose toujours qui était commun, en fait, à toutes ces personnes. Je trouvais ça assez émouvant, en fait. Même si, bon.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows.
hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Elle croit vraiment qu'elle pourra profiter de ces soirées pour travailler, pour commencer ce qu'elle a projeté de faire tout au long de la journée, les tâches sans cesse reléguées à plus tard par des urgences qui semblent toujours plus pressantes si l'on en croit l'intensité des cris. Ils attendent la tombée du soir en espérant qu'un fantastique sursaut d'énergie créatrice leur permettra d'avancer à pas de géant dans tous les projets en retard. Ils se composent des feuilles de route, ils savent que leur programme nocturne est un peu ambitieux, mais comme ils n'ont pas le choix, ils sont certains d'y arriver sous l'effet de la pression. Une fois installés dans le canapé, l'ordinateur sur les genoux, ils lisent d'abord quelques messages, consultent les sites des journaux. Ils ont toute la nuit devant eux. Ils ne retardent que très peu le moment de s'y mettre. Bientôt, un engourdissement intégral les gagne irrésistiblement. Ils sentent leurs paupières se fermer contre leur volonté. Ils glissent dans un état second sans pouvoir résister et se réveillent un peu plus tard, au milieu de la nuit, dans la même position, toujours habillés, de la tête aux pieds. Deux épuisés chroniques qui renchérissent à tour de rôle pour essayer de décrire leur état. Je suis fourbu, fracassé, éreinté. Je ne tiens plus debout, je pourrais dormir 3000 ans. Je ne peux plus bouger. Vas-y toi si tu peux. Impossible de me lever.
Valérie Mrejane, vous riez vous-même en écoutant la lecture de ce passage de votre livre où vous parlez effectivement de quelque chose qu'on connaît bien quand l'enfant est bébé. C'est cette fatigue absolument inhumaine qui repose sur les épaules de la mère, du père, parfois aussi, et qui change la perception du monde. On a l'impression, à vous lire aussi, qu'il y a une déformation de la réalité, que vous avez du mal à habiter votre propre vie, en fait.
Disons qu'on essaye de... Enfin, ce que j'essaie de pointer un peu dans le livre, comme ça, en filigrane, c'est les interstices à l'intérieur desquels on essaye de se glisser, on croit naïvement pouvoir se glisser, par exemple la nuit, aussi quand on travaille la nuit, et puis en fait on échoue lamentablement, parce qu'on est tellement épuisé, mais ça c'est arrivé plusieurs fois, enfin ce passage-là, le fait de s'endormir tout habillé dans le canapé... C'est-à-dire tout d'un coup, ces tout petits moments volés deviennent, même si l'espace se réduit, en fait, par exemple, pour écrire ce livre, j'ai attrapé un tout petit peu de ces moments, et justement pour les raconter, en fait, parce que ça devient la matière même, finalement, du texte. Et tous ces moments... Parfois vraiment épuisant, etc. En fait, ça me faisait assez rire aussi de les raconter de cette manière-là. Enfin, cette surenchère dans le fait de dire « je suis épuisée » de part et d'autre, en fait, des deux parents. On a l'impression qu'ils rivalisent de superlatifs pour gagner le concours de celui qui sera le plus convaincant, en fait, à travers les mots, pour décrire son état, etc.
Mais cet épuisement et aussi cet état de révolte, parfois, quand on pense à ce qu'on pourrait faire de sa vie aussi, qu'il faut reconquérir, c'est-à-dire recommencer à travailler, recommencer à exister en dehors du père ou de la mère. Il y a un très joli livre, très intéressant, qui vient de paraître, paraître aux éditions La Contre-Allée. Je crois que vous l'avez lu, vous aussi, Valérie Mrégène. Voilà, ce qui vient de sortir, ça s'appelle La femme brouillon d'Amandine D. Et elle revisite exactement, comme vous, les stades de la maternité. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant, puis qui doit vous concerner aussi. Je voudrais en lire quelques lignes de ce livre. C'est quand le bébé a quand même pris quelques mois et qu'il faut bien que la mère recommence à gagner sa vie, à travailler, à exister. Elle en a envie. Et alors, elle essaye. Et ça donne ça. Je m'évertue à emmener le bébé a des rencontres littéraires et manque de l'étouffer chaque fois qu'il émet un couinement. J'aimerais le déposer à une consigne, le ranger dans une étagère, l'accrocher au porte-manteau. Montrer aussi que malgré la créature scotchée à ma poitrine, mes kilos en trop et la poussette qui encombre le passage, je n'ai rien perdu de mon acuité. Certes, je n'ai rien lu depuis plusieurs semaines et mon actualité est rythmée par les biberons. Mes livres sont abîmés, non parce que je les lis, mais parce que je les ouvre et les referme toutes les 10 minutes, les cornes à la va-vite, les poses ouverte, les oublie dans un coin, marche dessus. De toute façon, les gens me parlent davantage de mon bébé que de littérature. Je le prendrais presque mal. Ça aussi, c'est voilà, c'est ensuite redevenir voilà un écrivain, une enseignante, une artiste. C'est aussi cette troisième personne, Valérie Mrégène, elle change non seulement votre perception de la familiarité, le regard que les autres portent sur vous, mais après, comment faire pour revenir dans le monde d'avant ?
C'est drôle ce passage parce que, en effet, d'abord j'ai reconnu beaucoup dans ce qui est décrit dans ce livre, beaucoup de correspondances et évidemment ça m'a beaucoup plu et fait sourire parce que
elle est plus
des moments...
est plus violente que vous
oui. Et j'ai connu bien sûr je me souviens enfin à Marseille j'avais assisté à une rencontre au musée d'art contemporain et je l'avais emmené avec moi à Bordeaux aussi etc. Donc il y a en effet des moments comme ça de crise où j'ai dû la confier à des gens parce que pendant la discussion tout d'un coup elle hurlait etc. Et je me sentais vraiment c'était difficile de me concentrer en fait sur la discussion en cours et bon enfin voilà mais...
En revanche, alors vers la fin du livre, il y a quand même le retour de votre regard amusé, d'une certaine ironie. Le père aide la mère en ce sens, puisqu'un jour, quand même, ils se rendent compte que leur délicieuse petite fée va un jour devenir une jeune fille en pleine crise d'adolescence.
À présent que leur tour est arrivé, ils anticipent déjà, en s'entraînant à trouver ça très drôle, le moment où leur fille adolescente les appellera aussi « mes vieux » et fera une tête de 6 pieds de long assise à leur côté au restaurant. Ils disent « quand je pense qu'un jour elle collera un panneau sans interdit à l'entrée de sa chambre et nous criera « j'ai pas cherché à vivre avant de claquer la porte ». À coups de boutade, ils se préparent déjà à des situations qu'ils connaîtront bientôt, même s'ils ne peuvent pour l'instant se projeter dans ce bientôt qui leur semble impossible, exagéré, bien trop loin d'eux pour y croire tout à fait. Ils ne sont pas pressés. Le présent les occupe assez. Mais en rentrant chez eux le soir, à l'angle de la rue, ils voient des jeunes debout agglutinés devant un bar. Des filles qui fument en buvant de la bière dans de grands verres en plastique mou. Et le père prend une petite voix pour dire que ma choutixette sera comme ça un jour. Il plaisante aussi à propos des futurs fiancés. Quelle tête on fera quand elle nous ramènera Kevin ou Charles-Édouard à la maison ? Et ils imitent le jeune amoureux du futur en prenant un air cool avec les yeux mi-clos, pas encore réveillé au petit déjeuner. « Bonjour monsieur, bonjour madame. » Ils regardent leur fille, pour l'instant si petite, et l'essai de superposition des deux images bien différentes leur fait un drôle d'effet. Cet être doux et réceptif aux marques d'affection, qui tend les bras pour qu'on la porte et fait irruption dans leur lit dès qu'elle ouvre les yeux le matin, leur demandera un jour de façon explicite de passer une soirée dehors, voire un week-end entier, si possible assez loin.
Valérie Mrégène, il y a aussi, comme pour tous les parents, dans ce livre... Le fait que les parents sont finalement éduqués par leurs enfants et qu'il faut aussi qu'ils apprennent à s'éloigner et à les laisser s'éloigner.
Bien sûr. En fait, cette projection comme ça dans le futur, c'est quelque chose qui arrive assez vite, j'ai l'impression. En fait, dès les premiers mois, il y a évidemment une grande dépendance mais une grande indépendance aussi. Et ça, on le sent de manière viscérale, en fait, dans l'affirmation, dans la négation, évidemment, enfin dans la phase du non, qui, en fait, c'est pas une phase, quoi. C'est une sorte d'état qui, à un moment donné, commence et puis ne s'arrêtera plus, en fait. Même si il y a quand même, de temps en temps, quelques oui, mais on sent bien très vite. Et c'est pour ça que je décris les parents comme s'entraînant à bien réagir et à trouver ça drôle, et etc. Parce que ils pressentent que bientôt ils vont se retrouver dans le rôle de leurs propres parents quand eux-mêmes étaient adolescents et se sont constitués contre, ou en tout cas à contre-courant, de modèles qui leur semblaient totalement éloignés, pas forcément en opposition totale, mais en prenant forcément une tangente, en fait, pour s'affirmer en tant qu'individu. Donc, et je suis bien placée pour savoir que moi, j'ai fait complètement autre chose que ce que mes parents auraient voulu que je fasse, que je ne corresponds pas exactement à l'image de ce qu'ils auraient espérer ou souhaiter que je sois. Donc, bien sûr, il y a cette chose qui plane comme une sorte de menace, en fait. Enfin, de menace, en tout cas, de quelque chose qu'il faudra avaler, qu'il faudra accepter, qu'il faudra essayer de prendre avec humour, même si, pour l'avoir expérimenté du côté enfant, on sait pertinemment ce qu'on a mis dedans à ce moment-là, en fait, cette façon de regarder, enfin, de finalement l'expression mes vieux, elle est terrible parce que elle pointe ça, en fait, cette différence incommensurable et qui est bien là, en fait, d'âge, de génération, de culture et d'intérêt, enfin voilà, de choses qui vont se renouveler et tout d'un coup on sera complètement dehors du coup, on réagira avec nos propres références totalement dépassées, comme nos parents l'ont fait avant nous, etc. Et
inévitable recommencement, oui. C'est un peu déprimant.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Paréo nouait dans le dos des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. Ne parlez pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Ne parlez jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop.
Valérie Mregène, vous pensez qu'un jour, votre livre, La troisième personne, vous le mettrez entre les mains de cette petite troisième personne devenue grande ?
Oui, certainement, mais je pense qu'elle le prendra avant même que je lui mette entre les mains.
Donc vous saurez peut-être à ce moment-là ce à quoi elle a pensé, et peut-être même avant l'adolescence, vous aurez droit à
un commentaire aguerri.
Voilà, alors on a voulu préparer le chemin justement à cette prise de conscience, Valérie Mregène. Elsa Denac nous a rejoint. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Vous avez trouvé une troisième et même une quatrième petite personne.
J'ai trouvé plein de troisièmes petites personnes, alors on en parle depuis tout à l'heure, il est peut-être temps de leur laisser la parole. Quoi qu'ils voient, quoi qu'ils ressentent, à quoi qu'ils pensent, on va écouter Louise, 10 ans, Jeanne, 4 ans et demi, et Alix, 5 ans.
Quand tu vois le livre et son titre, tu imagines qu'il va y avoir quoi dans les pages ? Grâce au titre, des fois, ça nous aide à savoir un peu ce qui se passe. Troisième personne. Moi, ça me fait penser aux conjugaisons. Troisième personne du pluriel. Sinon, ça peut être... Il y a un couple et puis il y a un enfant qui arrive. C'est la troisième personne dans la famille. C'est moi la troisième personne. Louise, 10 ans. Je suis en CM1.
Je m'appelle Alix. J'ai 5 ans.
Décris le monde, décris ton monde.
La terre n'est pas carrée, la terre n'est pas triangulaire. La terre n'est pas un losange, elle est ronde.
Bah elle est là la terre. T'as la terre dans ta chambre toi.
Non, c'est pas la terre, c'est un ballon.
Quels sont tes rêves ? Pour moi cette question elle est très vague parce que les rêves on en fait tout le temps. Après tu sais plus trop quel est ton vrai rêve. Mon rêve c'est d'avoir tout le temps des rêves.
Toi, comment tu fais pour t'endormir ?
Je fais la musique. Câlin, câlinou, caliente, câlinou. Dès que je crie comme ça, il me panne. Bébé, il s'endort. Quand je fais des cauchemars, ça veut dire qu'il y a des monstres en vrai. Alors je prends mon épée, ma fausse épée, et je les pointe vers les monstres et fais semblant que c'est une vraie épée. Et là, ils s'enfuient. Il y en a toutes les nouilles, les monstres. J'ai peur d'eux. Et en plus, ils comprennent rien.
L'enfant, le père, la mère, si La Fontaine avait écrit une fable qui porte ce titre, de quoi parlerait-il ? Pour moi, ça parlerait de la famille quotidienne. Ça parlerait de comment ça évolue quand on grandit ou quand on vieillit.
Et ça serait quoi la morale de l'histoire ?
Bah que tout le monde vieillit, on évolue à travers l'âge. Personne n'a fini de vieillir ni de grandir.
On est des êtres humains. Il y a d'abord les dinosaures, après les hommes périscolaires, les hommes préhistoriques, et après il y a eu les humains.
Avoir un enfant, même si c'est un bébé, ça fait changer le monde. Ça fait une vie de plus dans le monde, par exemple. Page 23. Quelque chose a bougé. Les meubles, le plancher, les objets, les affaires. tout est bien à sa place, mais la perception a changé entre le jour où ils sont partis en panique et celui où ils rentrent avec leur nourrisson. Qu'est-ce que tu penses que ton arrivée a changé dans la vie de tes parents ? Les gens, ils ont déménagé pour avoir un appartement plus grand. Ça va changer leur vie parce qu'il va y avoir après l'école, peut-être même la crèche, les babysitters.
C'est un enfant. Parce que l'adulte, il est plus grand. Avant, j'avais dedans et maintenant, j'ai partout dans la bouche.
Quand tu te poses des questions, à qui les poses-tu ? Bah, ça dépend quelles questions. Si c'est des questions plutôt personnelles, c'est à mes parents ou plutôt à mes amis. Bon, si c'est des questions qui font partie du monde plutôt ou des régions, des pays, enfin voilà, bah, je vais me poser plutôt au président. Par exemple, un jour, je me suis posé une question. Comme c'était de l'actualité, on entendait parler des migrants. J'ai demandé au président de la République pourquoi on n'accueillait pas plus de migrants. Et on m'a répondu. On m'a répondu qu'ils disent qu'ils sont en train d'essayer de bien accueillir des migrants dans 161 centres d'accueil, dans 78 départements. Mais des fois, on se demande combien on peut mettre de migrants par centre, parce que ça peut être des tout petits centres. Du coup, on n'accueille pas beaucoup de migrants.
T'as pas encore eu ta réponse, alors ?
Oui, j'ai pas eu ma vraie réponse.
Donc tu peux le réécrire.
Oui. Si vous avez des questions qui peuvent intéresser le président de la République, bah vous pouvez envoyer une lettre.
N'hésitez pas.
Pourquoi il n'y a jamais eu de femme pape ? Pourquoi il y a des gens qui ont les yeux bridés ? Pourquoi les larmes sont-elles salées ? Les parents, des fois, ils ne sont jamais posé des questions et quand toi, tu poses ces questions, ils disent « ah oui, quand même, c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais qui est très intéressante. » Et puis voilà, c'est important d'avoir plein de questions parce que comme ça, tu découvres plus de choses. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Astronaute pour aller sur Mars.
On se pose la question avec mes copines des fois. Et moi, je sais ce que je veux faire quand je serai grande. Je fais du théâtre, j'ai envie de devenir actrice. J'aime bien aussi faire des méchants, j'en ai déjà fait dans des spectacles à l'école. Ça apporte des émotions, même s'il est méchant, il a forcément un truc qui l'a rendu méchant ou quelque chose. Quelqu'un lui a fait quelque chose de méchant pour qu'il devienne méchant. Ça explique aussi un peu la vie. L'enfant découvre l'ivresse, la liberté et la distance. Il connaît pour la première fois l'éloignement, une certaine solitude, une expérience nouvelle.
On sort de la maison avec une porte après t'avoir. Après on a des cailloux et on a un portail.
À quel moment tu crois que tu seras indépendante et autonome ? Des fois j'ai envie d'être indépendante et autonome quand j'arrive pas à faire quelque chose toute seule. T'as très envie de vouloir savoir faire cette chose tout seul. Personne ne peut faire toutes les choses tout seul.
Heureusement.
Mais heureusement, parce que comme ça, ça appelle à la solidarité et choses comme ça.
Est-ce que tu as une question à poser ?
Alors, l'auteur, pourquoi avez-vous fait ce livre ? Et à Kathleen et Vin, pourquoi avez-vous invité cet invité ?
Eh bien, j'ai invité cette invitée parce que j'avais envie de parler avec elle de ce livre, troisième personne, qui vient de paraître chez POL. Et vous, alors Valérie Omrejeune, pourquoi diable avez-vous écrit ce livre ?
Pour passer dans votre émission, bien sûr.
Eh bien, voilà. En tout cas, il y a une chose que Louise dit dans le reportage d'Elsa Dena, que en fait, il s'agit de finir de grandir. Et j'ai l'impression, en vous lisant, Valérie Omrejeune, que justement, vous étiez une jeune maman et que vous avez fini de grandir avec cette troisième personne.
Oui, bien sûr. Il y a cette idée-là de passer de l'enfance ou de la vieille enfant à la jeune maman. Oui. Bah oui, ça c'est irrémédiable. Enfin, il y a quelque chose qui bascule très clairement à ce moment-là, mais encore une fois, presque à son insu, en fait, enfin, de façon irrévocable. C'est curieux parce qu'en effet, la perception a changé, mais sans qu'on sache exactement nommer pourquoi, en quoi, etc.
Mais alors, justement, si cette perception du monde qui vous entoure a changé pour vous, Valérie Mrejène, est-ce que ça veut dire que votre écriture à venir sera changée également?
Oui, je pense. Oui, sans doute. Je sais pas, peut-être plus...
Ou moins.
Plus apaisé, ou moins, moins ceci, plus cela. C'est difficile d'en parler comme ça, parce que ça se fait beaucoup en faisant, précisément. Mais je sens que mon regard a changé. Donc, oui, nécessairement, l'écriture, sans doute aussi. Et mon regard sur les choses, sur le monde, oui.
Eh bien donc, nous verrons, suite au prochain numéro, au prochain livre, prochaine vidéo, prochain film aussi. J'ai entendu parler d'un long métrage en préparation. Donc, ouais. Nous suivrons les étapes du vieillissement, puisqu'on parlait de vieillissement.
Oui, c'était assez drôle, la morale c'était de l'histoire.
Voilà, c'était bien tout résumé. Le monde vieillit. En tout cas, merci Valérie Mrejène d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que ce livre, Troisième Personne, est paru chez POL et je donne les références également du livre qui nous a bien plu à toutes les deux, le livre d'Amandine D, ça s'appelle La Femme Brouillon et ça vient de paraître aux éditions La Contre-Allée. Merci à vous Valérie Mrejène.
Merci à vous.
Et bonne route et vieillissez bien.
Allez.
Pour l'humeur vagabonde de ce jour, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, dimanche prochain, où j'aurai le plaisir de recevoir un auteur américain qui a publié un livre qui s'appelle en français « Les Furies » et qui, en 2015, lorsqu'il a été paru aux États-Unis, a reçu le meilleur compliment que l'on puisse avoir, le soutien de Barack Obama, qu'il avait sacré meilleur roman de l'année. Je recevrai donc Lauren Groff dimanche prochain. Mais bien sûr, France Inter continue aujourd'hui, dimanche, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière qui vous attend avec ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter, bien entendu.